La semaine du cerveau. Je voudrais remercier tout particulièrement l'Espace Mendès France de bien vouloir nous accueillir dans le cadre d'un partenariat que nous avons maintenant depuis de longues années avec le festival. Je voudrais remercier notre conférencier Didier Dulon qui a affronté le mauvais temps pour venir. Il faisait peut-être pas meilleur à Bordeaux, à vrai dire, pour venir nous trouver. Et qui va vous être présenté plus particulièrement par le professeur Jabert. Et je voudrais simplement vous dire deux choses pratiques. D'une part, la conférence va être enregistrée intégralement, et le débat ensuite d'ailleurs, par RCF Poitou, qui rediffusera le 27, c'est bien ça ? Ah, où sont-ils les gens de RCF ? Bon, enfin, ça sera, on vous donnera l'horaire plus précisément. Ça sera diffusé, je crois, le 27 mars, hein, c'est ça. Et, d'autre part, y a-t-il dans la salle des personnes qui sont intéressées par l'utilisation du logiciel AVA ? Non, c'est un logiciel qui permet aux personnes malentendantes d'avoir une traduction automatique et instantanée de ce que dit le conférencier, mais il faut une petite installation pour ça. Mais si personne ne souhaite utiliser ce logiciel, on va laisser tomber. Et à ce moment-là, je vais passer la parole à Mohamed Jabert pour la présentation scientifique cette fois-ci. Merci.
Scientifique, tu en es un. Hein. Donc c'est un grand plaisir déjà de revoir mon collègue, le professeur Naud, hein, parce qu'on a été ensemble dans le même bâtiment pendant quelques années. Et pour la petite histoire, parce qu'on ne se croise pas souvent, c'est quelqu'un qui a énormément aidé l'émergence de notre unité de recherche. Voilà. Alors, pour rester plus factuellement, merci, voilà, c'est super. Donc, je veux remercier tout de suite mon collègue, le docteur Didier Dulon, qui est donc directeur de recherche à l'INSERM et qui dirige une équipe de recherche à Bordeaux. Cette équipe de recherche est rattachée à une autre unité à l'INSERM, et ça vous sera présenté. Et donc, comme on dit dans le langage courant, avec mon collègue, le professeur Naud, donc, on a fait d'une pierre deux coups, à savoir qu'on a jumelé la semaine du cerveau avec les manifestations autour des sens que vous avez l'habitude de suivre. Et c'est dans ce cadre-là que notre collègue, le docteur Didier Dulon, va intervenir pour faire des neurosciences autour de l'oreille. Remercie beaucoup. En fait, on s'est croisés, parce que je fais ma carrière à Bordeaux, et on s'est croisés aussi à Bordeaux. Voilà, le monde est petit. Et donc, la semaine du cerveau, parce que je vois qu'il y a beaucoup ici qui la connaissent peut-être pas forcément, c'est une semaine qui a lieu tous les ans. C'est une manifestation internationale, le Brain Awareness Week. Et en France, c'est la semaine du cerveau. Elle a lieu dans de nombreuses villes. Et ici, à Poitiers, elle est chapeautée par notre unité de recherche, donc le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques. Je tiens à remercier Laetitia Prestoz, ici présente et maître de conférence dans notre unité, qui s'occupe de toute l'organisation de la semaine du cerveau avec Christine Guiton de l'Espace Mendès France, et avec qui nous avons des relations de travail, mais surtout amicales, depuis une quinzaine d'années. Donc, on a eu des expositions, il y a une pièce de théâtre ce samedi, il y a eu une conférence sur l'anthropologie des émotions, donc par des collègues sociologues, comme quoi ne sont pas complètement affirmés. Je n'avais pas tout compris lundi soir, mais bon, il faut décloisonner. Hein. Voilà. Donc, sans être plus long, je vais donner la parole à notre collègue. Donc, vous avez l'habitude, hein, 30-40 minutes d'exposition, puis après, un échange avec la salle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Merci au professeur Jabert de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux d'être présent à Poitiers pour participer à cette semaine du cerveau. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de l'oreille interne et des troubles auditifs et des problèmes de surdité. Il faut que je fasse à la main. Voilà. Peut-être orienter vers la clé. Je vais essayer. Le laser marche, je le ferai à la main. Ne vous inquiétez pas, je le ferai à la main. Je voulais simplement ici vous rappeler la journée de l'audition qui a eu lieu la semaine dernière, qui a été un peu occultée par la journée des droits de la femme. C'était le même jour. C'était le 8 mars. Donc, c'est chaque année, il y a une journée, une campagne pour parler des problèmes de l'audition, des problèmes des acouphènes et des problèmes de l'hyperacousie. Je vous invite à aller sur ce site qui est très bien fait. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis ce soir, allez voir ce site. Il y a une description des problèmes des troubles auditifs qui sont très bien faits. Alors, pour changer, ça va être ici. Alors, donc, mon laboratoire est situé donc à l'Université de Bordeaux. Je suis directeur de recherche à l'INSERM. Et l'intitulé de notre laboratoire, c'est neurophysiologie de la synapse auditive. Alors, je vais définir de suite ce que c'est que la synapse auditive. C'est en fait le lien nerveux qui connecte, c'est la première synapse du relais des voies auditives, le lien nerveux avec la cellule ciliée dans la cochlée, dans l'oreille interne, qui capte les sons. C'est ce que je vais vous présenter au cours de cet exposé, comment ça fonctionne. Notre laboratoire est situé à l'hôpital Pellegrin. Nous travaillons en collaboration avec des cliniciens pour comprendre et essayer de réparer soigner des patients qui ont des troubles auditifs. Je vous signale également ce site ici de la Fondation pour l'audition. Allez voir également ce site qui est assez bien fait et qui décrit tous les problèmes auditifs et surdité. Cette fondation finance la recherche, et donc finance une partie de nos recherches. Et donc il est important que le public aille voir, public intéressé par les problèmes d'audition, eh bien, répondent à ces appels, à ces dons de la Fondation pour l'audition. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'INSERM. C'est l'INSERM qui paye mon salaire. C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Bon, de manière générale, c'est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui est à la fois sous la tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'INSERM compte à peu près 2200 chercheurs en France, 3000 ingénieurs techniciens et 2500 chercheurs post-doc. Il y a de très nombreux laboratoires INSERM sur tous les territoires français. L'INSERM est partagé en 9 instituts, 9 thématiques globales. Je ne vais pas les lire une par une, mais ça va de la cancérologie aux neurosciences dans lesquelles notre laboratoire dépend. Donc, thématique des neurosciences qui couvre donc les sciences cognitives, neurologiques et psychiatriques. Voilà pour l'INSERM, donc, qui finance nos recherches et qui paye mon salaire, puisque je suis directeur de recherche à l'INSERM. Alors, le plan de mon exposé aujourd'hui, ce soir, ce sera, donc, je vous décrirai ce que c'est que l'oreille interne. Je vous décrirai tout d'abord ce que c'est qu'un son. Bon, ça paraît évident, mais je vous décrirai ce que c'est qu'un son du point de vue physique. Je vous décrirai comment nous entendons et les principaux troubles de l'audition. Et ensuite, en dernière partie, comment prévenir ces troubles de l'audition et les problèmes de dépistage et de traitement. Alors, l'audition, bon, c'est une faculté sensorielle essentielle pour percevoir, reconnaître et comprendre le monde sonore, dont en particulier le langage et la parole font partie. Le langage, c'est le moyen universel pour l'homme de communiquer. Donc, l'audition, c'est essentiel pour communiquer, échanger des idées. Donc, sans audition, eh bien, on n'entend pas la parole et donc on peut avoir des problèmes d'isolement au sein de la société. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'un son, tout d'abord ? Eh bien, un son, c'est une onde sonore, c'est une vibration des molécules d'air. On voit pas un son, mais nous sommes entourés de molécules d'air. Et ce sont les vibrations, compression, raréfaction de ces molécules d'air qui transportent l'information acoustique sous forme d'ondes. Comme quand vous jetez un caillou dans une mare, vous avez une onde qui se forme à la surface de cette mare, une onde ondulatoire qui transporte une certaine quantité d'énergie qui sera analysée et interprétée par votre oreille interne. Donc dans l'air, c'est ce qui se passe. Il y a compression, raréfaction de ces molécules d'air sous forme d'ondes qui vont vers votre oreille. Je rappellerai qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Dans l'espace, c'est le vide. Et donc en absence de molécules d'air, il n'y a pas de son, donc les cosmonautes communiquent par onde radio. Voilà, c'était simplement une anecdote. Le premier à avoir, on va dire, mis le doigt sur ce que c'était que le son, c'est ce chercheur d'origine britannique, l'un des pères de la chimie moderne, Robert Boyle, qui a démontré que l'air, c'était en fait le véhicule et le transport du son. Et voici ici son article du XVIIe siècle et les instruments qu'il a utilisés. En fait, il utilisait une jarre dans laquelle il faisait le vide. Il avait placé un réveil et faisant le vide, il s'apercevait que le son produit par le réveil n'était plus entendu. Et donc, il devait y avoir une substance, l'air, une substance élastique et qui avait un certain poids, puisqu'il a dû la peser, qui transportait le son. Et voici ici l'équivalent de l'expérience d'un lycéen, une jarre dans laquelle on fait le vide et une sonnette suspendue à des élastiques pour ne pas transmettre directement les vibrations au bocal. Lorsqu'on fait le vide, et bien on n'entend plus sonner. Ben oui, c'est le son qui transporte l'énergie vers votre oreille. Ça paraît évident, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a donc des ondes transportées par les molécules d'air qui vont vers notre oreille. Alors le champ auditif humain, encore des généralités. Un son grave, donc c'est à peu près 200 Hz, c'est l'onde acoustique. 200 Hz, c'est un son grave. 4 kHz, c'est plutôt un son aigu pour notre oreille. Et pour resituer le champ auditif dans la gamme de ce que peut entendre l'ensemble des animaux, les éléphants, les taupes, entendent surtout des infrasons, c'est-à-dire des sons de basse fréquence. L'oreille humaine couvre environ de 20 Hz à 20 kHz, c'est notre champ auditif. Et il y a des ultrasons que peuvent entendre certaines catégories d'animaux, dont les chats et les chiens, qui peuvent aller jusqu'à 40 kHz. Et les chauves-souris, mais les dauphins, dans l'eau pour les dauphins, jusqu'à 160 kHz. Donc l'oreille interne d'un éléphant va être très différente de l'oreille interne, bien entendu, d'un dauphin, puisqu'elle va pouvoir, cette oreille interne doit pouvoir capter des ondes mécaniques à des fréquences très différentes. Alors, bien entendu, dans le cadre des ultrasons, ces ultrasons sont utilisés pour la chauve-souris comme quasiment un instrument de vision ou comme un instrument de radar pour voir ce qui se passe dans l'espace. Et c'est essentiel, par exemple, pour les dauphins, pour repérer par écholocation leur proie et même se repérer en absence de lumière dans l'espace. Alors, un son se caractérise par son intensité. Donc on parle en décibels, d'accord ? Ici, décibels SPL. Bon, une équation un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par rapport à une référence, on parle donc de décibels SPL et la gamme va de 0 dB à peu près à 130 dB SPL. C'est la gamme que peut entendre l'oreille. Alors, c'est bien entendu une échelle logarithmique puisque cette gamme de puissance est très étalée, donc on utilise une échelle logarithmique pour comprimer les valeurs, en fait. Et vous voyez ici que pour la parole, on va jusqu'à 40 décibels. C'est le taux, le son 40-60 décibels. Lorsque, j'arrive pas très bien à lire ici, lorsque il y a des cours, dans les cours de récréation, on peut jusqu'à 80. Et pour un marteau-piqueur, 110 décibels et 130 décibels ici. Donc vous voyez que pour ces énergies les plus élevées ici, dans la partie rouge, ce sera des sons qu'on appelle qui peuvent provoquer des dommages irréversibles pour l'oreille. J'en dirai deux mots un peu plus tout à l'heure. Alors, pour l'intensité du son, on parle donc de décibels. Alors, ce nom décibel vient du chercheur écossais qui a immigré aux États-Unis au XIXe siècle, Alexander Graham Bell. C'est l'inventeur du téléphone, du microphone. Et le principe du microphone, très simplement, c'est quand on fait bouger un circuit électrique dans un champ magnétique, eh bien, il y a un phénomène qu'on appelle induction électromagnétique. Il y a la production d'un courant alternatif qu'on peut mesurer. Et en fait, l'oreille, c'est ce qu'elle va faire. Le son va faire bouger le circuit électrique dans un champ magnétique, entre guillemets, qui n'existe pas dans l'oreille, mais ce sera l'équivalent, et ça produira un courant analogique. Alors ici, pour continuer un peu sur les propriétés physiques du son, la vitesse du son va dépendre, bien entendu, du support, vraiment. Et cette équation un peu compliquée, ça va varier de la température, mais également du coefficient de rigidité et de la densité du milieu dans lequel se propage le son. Quelques exemples, dans l'air à 20 degrés, le son voyage à 334 mètres par seconde. Et à 0 degré, le son est accéléré à 321 mètres par seconde. Le son, bien entendu, est beaucoup plus rapide dans un milieu peu dense tel que l'hydrogène. Bon, je vais passer très vite là-dessus, simplement pour vous dire que la vitesse du son n'est pas constante. Elle dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. Bien entendu, l'intensité du son décroît avec le carré et la distance. Donc, plus vous éloignez d'une source, eh bien, l'intensité acoustique va décroître avec le carré et la distance. Alors, vous dire deux mots sur les performances extraordinaires de l'oreille, avant de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. C'est ici, ce qu'on a dessiné ici, c'est ce qu'on appelle la courbe audiométrique de l'oreille interne. Donc, l'intensité acoustique en décibels en fonction de la... par rapport aux fréquences acoustiques. Alors, la partie verte ici correspond au champ auditif et la partie centrale ici correspond à la zone, on va dire, de conversation, 60 décibels pour 1 kHz. Les conversations, les sons de conversation du langage tournent entre 1 et 5 kHz. Vous voyez qu'au-dessus, bien entendu, lorsque l'intensité acoustique est trop forte, l'oreille peut être endommagée de manière irréversible. Et en dessous, bon, il n'y a pas de dommage, mais on n'entend pas. Voici globalement l'audiogramme classique de l'oreille interne. Alors, petite remarque, c'est quand le son devient nuisance, effectivement, le bruit, ça peut devenir une pollution invisible qui nous détruit la santé. C'est vrai, quand on habite, par exemple, en ville, où il y a beaucoup de bruit, ça peut gêner sans que ça détruise physiquement l'oreille. En fait, le taux de consultation médicale est beaucoup plus élevé en zone bruyante qu'en zone calme, ça a été remarqué. Et c'était souvent associé à des problèmes d'hypertension artérielle, la prise de somnifères, plus ou moins de tranquillisants quand il y a du bruit. Et bien entendu, il peut y avoir des troubles du sommeil chez l'enfant. Et bien entendu, des troubles de l'attention et de la mémoire. Donc le son, en dehors du fait qu'il ne soit pas trop bruyant et n'abîme pas physiquement l'oreille, il peut nerveusement toucher notre santé. Alors, simplement, cette diapositive qui est un peu compliquée, c'est vous situer à quel niveau se situe la sensibilité de l'oreille interne du point de vue physique, entre le déplacement des molécules d'air qui vibrent. On est placé à 10-9 mètres à peu près. C'est le seuil de sensibilité de l'oreille. L'oreille interne est extrêmement sensible. Et donc, si on va en descendant, si on a 1 mètre, on divise par 10 000, on a à peu près la taille d'un cheveu, on divise encore par 100, c'est la longueur d'onde d'un micron à peu près. On divise par 10 000, on arrive au seuil de vibration. Donc on est à l'échelle moléculaire en ce qui concerne le seuil de détection des sons par l'oreille interne. On divise encore, on arrive au diamètre, on arrive au niveau atomique, donc extrêmement petit, 10-15 mètres. Et on divise encore par 1000 fois. On arrive au système LIGO. Bon, j'ai fait une petite parenthèse pour ceux qui font un peu d'astronomie ou qui connaissent un peu la physique. C'est finalement l'oreille la plus sensible qu'ont pu réaliser des physiciens. Je en dirai deux mots tout à l'heure. Alors ici, entre parenthèses, pour resituer le son, toujours par rapport à la lumière, eh bien, le son se propage, comme je vous disais, à 340 mètres par seconde, eh bien, 1 million de fois plus lentement que la lumière. La vitesse de la lumière étant une constante, c'est l'ondulation de cette onde électromagnétique. La vitesse du son, comme je vous disais, va dépendre du milieu dans lequel on se trouve. Je vous laisse réfléchir à cette phrase de Jean-Yann. Alors, une petite remarque comme ça avant de rentrer. C'est finalement notre oreille nous permet d'entendre le passé et très loin dans l'espace. Ce sont ces publications faites par ces trois physiciens qui ont eu le prix Nobel l'année dernière et qui ont créé et réalisé ce projet LIGO, qui est le Laser Interferometry Gravitational Observatory. C'est la mesure par interférométrie laser d'ondes gravitationnelles qui viennent très loin dans le passé, très loin dans l'espace. Et ça provient de la fusion de deux corps noirs, c'est-à-dire des structures de très grande masse qui fusionnent et produisent des vibrations de l'espace-temps qui peuvent être entendues par l'oreille interne. C'est ça qui est remarquable. C'est la petite parenthèse que j'ai voulu vous faire. Et d'ailleurs, on peut les entendre. Si ça marche. Voilà, on peut entendre ici. C'est l'enregistrement du son transmis des vibrations, du changement de taille de ces faisceaux laser qui peuvent être donc traduit en signal acoustique dans la fréquence de l'oreille humaine. Donc on pourrait imaginer entendre des sons provenant de faits qui se sont passés 1,8 milliard d'années. on peut donc communiquer quasiment avec ce qui se passe à l'origine de l'espace. Voilà ici la fusion de ces deux trous noirs, mis en évidence par ces chercheurs américains et ces ondes gravitationnelles qui ont été détectées la première fois le 17 août 2014. Et donc traduit ici en champ acoustique. Donc on peut entendre le passé. Ce qui est remarquable, ça vous laisse un petit peu réfléchir à ces choses. Alors comment j'entends ? Alors on va rentrer dans le sujet physique de l'oreille. Donc l'oreille se partage en trois parties. L'oreille externe, donc qui est ici ce pavillon que vous connaissez tous. L'oreille moyenne, c'est la partie 2, qui contient cette petite chaîne d'osselets que je vais décrire tout à l'heure, le tympan, et l'oreille interne qui contient ici la cochlée et l'appareil vestibulaire. Donc je vais rentrer dans le détail de ces trois parties. Alors la cochlée, le vestibule, c'est l'organe de l'équilibre. Voici. Alors globalement, ici, ces images empruntées sur le site de Rémi Pujol, des images animées qui vous montrent comment fonctionne et comment on entend. Vibration du tympan, vibration des osselets qui vont faire varier la pression de liquide à l'intérieur de la cochlée et stimuler des cellules ciliées, des capteurs d'ondes mécaniques qui vont transformer cette onde mécanique en signal électrique. Je vous le décrirai tout à l'heure. Voilà globalement comment fonctionne l'audition. Alors bien entendu, notre oreille interne est très petite, ça c'est à peu près un demi-centimètre. Vous voyez ici où elle est logée. Je repasse une dernière fois. L'onde passe, fait vibrer le tympan. Réaction de la chaîne des osselets. Ça pousse et ça pousse les liquides à l'intérieur de l'oreille et ça va stimuler nos cellules ciliées. Alors globalement, la cochlée, ici, eh bien, elle a une certaine tonotopie, pour faire simple. Les ondes de haute fréquence, donc 20 kHz, les fréquences les plus élevées acoustiques qu'on peut entendre, sont décodées à la base de la cochlée, alors que les sons les plus graves sont décodés à l'apex. Une certaine tonotopie. Cette tonotopie est due à l'élasticité, à la différence d'élasticité qu'il y a entre la base de la cochlée et l'apex de la cochlée, c'est purement mécanique, comme une corde de guitare, donc il va résonner pour les hautes fréquences à la base et pour les basses fréquences à l'apex. Voici ici le fonctionnement de notre oreille. Alors, bien entendu, on va rentrer en détail sur l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne transmet l'énergie acoustique du tympan à l'oreille interne. En fait, elle joue le rôle d'adaptateur d'impédance entre le milieu aérien, donc les vibrations des molécules d'air, à une onde à l'intérieur d'un liquide qu'on appelle périlymphe, qui se trouve dans la cochlée. Cochlée, ça veut dire coquillage en grec. Hein. Voilà. L'oreille moyenne, elle compose trois petits os, le marteau, l'enclume et l'étrier. L'étrier, vous avez ici une pièce de 10 cents pour vous donner la taille de l'étrier qui va à peu près 3 mm. Donc c'est vraiment l'os le plus petit du corps humain qui transmet donc les vibrations mécaniques à l'intérieur de la cochlée. Je parlerai du réflexe ossiculaire. Ces petits os de l'oreille moyenne sont accrochés par des tout petits muscles qui peuvent adapter la mécanique et les mouvements de ces os. C'est ce qu'on appelle le réflexe stapédien, qui consiste à la contraction des muscles de l'étrier et de l'oreille moyenne, et ceci vise à atténuer le niveau d'intensité des sons transmis à l'oreille interne. C'est comme un réflexe qui permet de diminuer la sensibilité de notre oreille. Cependant, ce système est relativement fatigable. Il n'y a pas de protection lorsqu'il y a des bruits de longue durée, c'est-à-dire que l'on est exposé à des bruits de très longue durée. Eh bien, comme tout muscle, ces muscles fatiguent et ils protègent moins bien notre oreille interne. Il n'entre en jeu que pour des fréquences graves, en général 1 kHz. Évidemment, la contraction musculaire est assez lente et ne réagit pas assez vite pour des sons de trop haute fréquence. Et elle intervient pas ou trop tard lorsqu'il y a des bruits impulsifs, tels que l'explosion ou arme à feu ou pétard, qui sont des bruits beaucoup trop rapides pour que ce réflexe puisse atténuer l'énergie. Donc, je répète, l'oreille fonctionne comme un microphone quasiment, donc produit un signal électrique, on verra où, qu'on peut enregistrer dans la cochlée, en plaçant une électrode d'enregistrement chez l'animal par exemple. On peut enregistrer la transformation de cette onde acoustique mécanique en signal électrique microphonique. Et la résolution, c'est au seuil de l'atome d'hydrogène, je vous rappelle. Voici ici une vue de dessus de notre appareil auditif, la cochlée. Voilà. Ça fait à peu près 0,5 cm, donc l'apex codant pour les basses fréquences et la base ici codant pour les hautes fréquences. Nous avons ici donc la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. La fenêtre ovale étant la fenêtre dans laquelle vient s'insérer l'étrier. Et ici, la fenêtre ronde étant la soupape qui permet l'évacuation des ondes, sachant que les milieux, en milieu liquide, ces milieux liquides sont incompressibles et donc il faut une soupape de sécurité pour qu'il y ait la création d'ondes mécaniques dans la cochlée. Voici ici, plus en avant, sous le microscope, puisque je vous rappelle que c'est assez petit, sous une loupe binoculaire, un grandissement à peu près 200 fois, on peut, une fois qu'on a retiré l'os, visualiser ce qu'il y a dedans et on voit ici notre organe auditif qui est porté sur une lame, qu'on appelle une lame basilaire, qui flotte dans ce milieu à l'intérieur de la cochlée. Et c'est cette lame basilaire qui va détecter les vibrations sonores. Alors, pour mieux vous expliquer ici un schéma anatomique, voici ici la cochlée découpée. On ouvre ce coquillage et dans ce coquillage se trouve donc l'organe qu'on appelle organe de Corti qui porte de toutes petites cellules ciliées, comme je vous montrerai tout à l'heure. Et voici ici une cellule ciliée interne avec ici une synapse. Une personne demandait ce que c'était une synapse. Donc c'est ici notre cellule ciliée et ici cette fibre nerveuse qui va donc transporter et véhiculer le message mécanique. À nouveau, voici la cellule ciliée. Donc il y a mouvement des cils, génération d'un potentiel microphonique. Ici, au niveau de la synapse, il y a ce qu'on dit un relargage de neurotransmetteurs qui iront exciter des fibres nerveuses qui encoderont le message. Pour l'historique, celui qui a découvert cet organe pour la première fois, l'organe auditif, c'est Alfonso Corti. Donc l'organe auditif porte le nom d'organe de Corti. Retenez que dans l'organe de Corti, dans la cochlée, même dans l'oreille humaine, il y a à peine 20 000 cellules ciliées. Donc c'est ce qui nous permet d'entendre, 20 000 cellules ciliées au total. Et ça, par rapport aux millions de photorécepteurs que nous avons dans la rétine, par exemple, c'est très peu. Par rapport aux milliards de neurones que nous avons dans le cerveau. Il y a deux types de cellules ciliées dans la cochlée, dans ces milieux. Trois rangées des cellules ciliées externes et une rangée de cellules ciliées internes. Ces deux types de cellules ciliées, alors on dit cellules ciliées, ces cils seront les véritables capteurs ou détecteurs de ces ondes mécaniques dont je vous parlais tout à l'heure. Cellules ciliées externes, elles auront un rôle d'amplificateur et les cellules ciliées internes auront le rôle de transmission du message vers le cerveau. Alors ici, en microscopie électronique à balayage, une description, une vue de nos cellules ciliées. Donc ça, c'est la cochlée dans laquelle on a retiré la partie osseuse qui l'a fermée, vue sous un autre angle. Et donc, en zoomant, on va voir ici, sur la membrane basilaire, nos cellules ciliées. On commence à les apercevoir ici, au bout de ma flèche. Ici, un peu plus grandi, nos trois rangées de cellules ciliées externes, la rangée de cellules ciliées internes, les fibres nerveuses qui partent et qui vont se réunir ici, former le nerf auditif. Un peu plus dans un grandissement un peu plus élevé, les cellules ciliées externes, les cellules ciliées internes. Un peu plus agrandi ici, sachant que cette taille-là, ici, ça fait 5 × 10⁻⁶ mètres, 5 microns. Donc les cils, les cellules ciliées externes qui ont une forme en V. Les cellules ciliées internes avec des cils en forme de bâtonnet. Et voilà aussi une différente vue. En microscopie, c'est comme une vue de dessus. De notre système auditif. C'est comme un voyage à l'intérieur de la cochlée. Voici ici. Donc nos cils de cellules ciliées sont disposés en trois rangées. Une petite rangée de cils, une moyenne et une grande. Il y a à peu près 80 à 100 cils par cellule ciliée. sachant qu'il y a 22 000 cellules ciliées par organe environ. Alors ces cellules ciliées, on est avec ce stock de 22 000 cellules ciliées, et ces cellules ciliées ne se régénèrent pas, et on en perd au fur et à mesure en vieillissant. Dès l'âge de 20 ans, on commence à perdre des cellules ciliées, notamment les cellules ciliées codant pour les sons les plus élevés, pour les hautes fréquences, donc progressivement. Donc on peut estimer qu'après l'âge de 50 ans, on a perdu entre 25 et 30% de cellules ciliées. Et donc ça va, au-dessus de 60 ans, on peut aller jusqu'à 40% de perte de cellules ciliées. Alors comment ça fonctionne à l'intérieur de la cochlée, et comment ces cellules ciliées avec leur cils, leur touffe ciliaire, détectent les sons? Or, simplement, vous rappelez que von Bekesi a eu le prix Nobel en 1961 pour sa théorie de l'onde propagée. Et en fait, il décrivait une onde, cette membrane basilaire oscille à la fréquence du son, comme une corde de guitare accordée. Et donc, les sons de haute fréquence résonneront ici, et les sons de basse fréquence plutôt vers l'apex. On va voir si ça marche. La cochlée, en fait, fonctionne comme un prisme acoustique, comme l'équivalent d'un... Elle va décomposer un son complexe en ses fréquences primaires à l'intérieur de la cochlée. Et chaque fibre donc sera excitée ou codera pour une fréquence bien caractéristique. On va voir ici si ça marche. Ouvrir. Bon, voilà. Pour rappeler un peu ce qui se passe, je vais grandir un peu. Un petit peu mieux. Ben alors le son, le tympan qui vibre, la chaîne des osselets, on fait varier la pression à l'intérieur de notre cochlée. Bon, ici, on la déroule pour vous montrer un peu ce qui se passe sur la membrane basilaire. Hein. En fait, elle n'est pas déroulée comme ça. Et donc, lorsqu'on envoie de la musique, s'il y a du son, voilà, par exemple, ça résonne ici, ça résonne ici. Et lorsqu'il y a un son complexe, et voilà, une musique, et bien ça vibre comme ça dans votre oreille, à l'intérieur de la cochlée. Et ça viendra exciter les cellules ciliées. Donc voilà réellement ce qui se passe dans votre oreille. Ok. Ça, c'est la même chose. Alors, schématiquement, voilà ce qui se passe en coupe de cet organe de Corti. Donc nos cellules ciliées, cette membrane, elle bouge, d'accord, avec le son, et donc elle vient exciter nos cellules ciliées, exciter les cils, et produire un signal électrique qui sera traduit ensuite au niveau de cette synapse en potentiel d'action, en train de potentiel d'action bien caractéristique, et sera envoyé, ce train de potentiel d'action sera envoyé vers le cerveau. Simplement, aussi une image de la cochlée. Pour que la cochlée fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine charge. À l'intérieur de la cochlée, il y a ce qu'on appelle l'équivalent d'une batterie. Une batterie, une différence de potentiel entre le liquide périlymphe et l'endolymphe. Et cette différence de potentiel est essentielle pour la transformation du signal donc acoustique-mécanique en signal microphonique, en signal millivolt, un signal analogique. Sans cette source d'énergie, sans cette batterie, il n'y a plus cette transformation et cette transformation du son en signal électrique. Donc c'est un clin d'œil, et simplement aussi un clin d'œil par rapport à cet article-là, qui montre que dans l'oreille interne, et dans cette batterie même de l'oreille interne, on peut alimenter une micropuce. Donc c'est signe qu'il y a, et c'est notre strie vasculaire, en fait, ici, qui entretient, aux dépens de pompes, de protéines un peu spéciales, qui entretient ce gradient, qui consomme énormément d'énergie, d'ATP, pour produire ce gradient. C'est pour ça que, souvent, lorsqu'il y a des pertes d'énergie ou des pertes des phénomènes d'anoxie, l'oreille est souvent l'organe qui en pâtit le premier. Et donc, retenez, donc on peut alimenter réellement une micropuce à partir de l'oreille interne. Alors, comment se passe au niveau des stéréociles l'encodage du signal mécanique en signal électrique? Eh bien, c'est purement mécanique. Ça doit être très rapide, puisque les ondes sont à très haute fréquence, plusieurs milliers de cycles par seconde. Donc, c'est loin d'être un phénomène d'encodage comme il se passe dans les photorécepteurs, où l'encodage des photorécepteurs est, entre guillemets, relativement lent. Le signal est relativement lent. Ici, ça va être direct. Donc, c'est l'ouverture directe de canaux par la force de l'onde acoustique. Et l'ouverture de ces canaux laisse passer des ions, c'est-à-dire des ions chargés, qui vont dépolariser la cellule et produire ce potentiel analogique. Et récemment, la nature même de ce canal ici, qui encode et transforme donc le son en signal électrique, a été récemment identifiée, simplement en 2011. Vous voyez, c'est récent. Et c'est un canal qu'on appelle TMC, peu importe le nom. Mais, donc la nature moléculaire, la nature protéique du canal est maintenant identifiée. Et des mutations sur ce canal sont responsables de nombreuses surdités, par exemple chez l'homme. Alors, comment est codée l'intensité du son? Eh bien, au niveau de la fibre nerveuse, si on place une électrode et on enregistre l'activité des fibres nerveuses, eh bien, c'est à 20 décibels, il y a un certain train de potentiel d'action, ici. Donc, je vous rappelle que le potentiel d'action, ou ces impulsions nerveuses, sont le seul signal que peut interpréter le cerveau. Donc, plus l'intensité augmente, plus les potentiels d'action, plus les signaux électriques sont rapprochés. Et donc, le cerveau sait qu'il y a là un son de forte intensité. Et voici ici, par exemple, imagé. Voilà, vu sur un oscilloscope à l'ancienne, l'activité du nerf électrique spontané, mais également, quand on va envoyer un son ici à 400 Hz, on verra, 400 Hz, vous voyez, il y a un train de potentiel d'action qui est cheminé au niveau du nerf auditif qui transmettra l'information vers les centres. Et donc, dans ce train de potentiel d'action est encodée à la fois donc, la fréquence du son, mais également son intensité. Et donc, ces différentes fibres nerveuses qui viennent contacter les cellules ciliées dans votre cochlée, donc c'est elles qui vont acheminer ces potentiels d'action vers les centres, sont de différentes catégories. Il y a à peu près 30 fibres nerveuses par cellule ciliée. Il y a des fibres qui codent pour les sons de basse intensité et des fibres qui codent pour des sons de haute intensité. Alors, on sait qu'au cours du vieillissement ou lors de traumatismes acoustiques, on a tendance à perdre plutôt les fibres en rouge, c'est-à-dire celles qui codent pour les faibles intensités. Donc souvent, quand on a un certain âge, il ne reste plus que ces fibres-là et on n'entend plus les sons de faible intensité. Je vais passer là-dessus. Vu que je m'attarde un peu, là, quelle heure il est, c'est un petit 7h15. Alors je voulais vous parler aussi des auto-émissions acoustiques, qui est un phénomène important. C'est qu'il ne faut pas voir son oreille comme un organe simplement passif. C'est que donc, l'énergie du son va rentrer dans votre cochlée, d'accord, mais également votre cochlée va à son tour produire une énergie qu'on appelle une auto-émission. Et ces auto-émissions ont été découvertes, auto-émissions ou écho. En fait, votre cochlée renvoie un écho. Je vous expliquais. Ces auto-émissions découvertes par David Kemp en 1977. Quand on envoie, par exemple, ici, avec un mini haut-parleur dans votre oreille un son, on peut récupérer avec un certain décalage une onde acoustique en retour qui va dépendre de l'intensité du son qu'on envoie. C'est véritablement un écho généré par l'oreille. Tout simplement parce que dans l'oreille, il y a des mécanismes actifs qui amplifient le son qui arrive. Je ne sais pas si je suis très clair. Étant donné que le niveau de détection de l'oreille interne est à l'échelle de 10 moins du nanomètre, pour pouvoir extraire du bruit ambiant c'est très faible niveau d'énergie, il faut qu'il y ait une amplification active dans l'oreille interne et on verra par quoi elle est due. En fait, ce sont les cellules ciliées externes qui ont des propriétés électromécaniques qui amplifient le son incident pour qu'il soit décodé tout le long de la partition cochléaire. Donc retenez que l'oreille interne est active et qu'on peut véritablement mesurer un écho qui provient de l'oreille. C'est d'ailleurs un test. Ces échos acoustiques sont un test clinique utilisé maintenant très fréquemment en clinique pour savoir si l'oreille interne des bébés est fonctionnelle ou pas. C'est le test des auto-émissions. C'est un test très simple avec donc un mini haut-parleur et un mini-microphone pour enregistrer ses ondes. Donc ça permet de dépister une surdité dès la naissance. Ça permet de savoir si nos cellules ciliées dans la cochlée sont fonctionnelles ou pas. Donc cette découverte de David Kemp en 1917 a eu des conséquences extrêmement importantes au niveau de la clinique pour dépister les surdités. Alors, voilà ce qui permet ou qui génère ces auto-émissions. Ce sont en fait des cellules ciliées externes. Donc, nos 15 000 cellules ciliées externes. Voici ici une cellule ciliée externe isolée sous le microscope vivante, une cellule de cobaye. Ici, une électrode de simulation. Eh bien, ces cellules sont capables d'osciller à la fréquence de dépolarisation, et ce jusqu'à plusieurs dizaines de kilohertz. En fait, il ne s'agit pas de contraction musculaire classique, il s'agit d'une molécule présente dans la membrane de ces cellules, qu'on appelle prestine, qui est en fait une protéine piézoélectrique, qui sent les variations de voltage et va répondre de manière mécanique. Donc une molécule piézoélectrique. Donc en fait un moteur électrique très propre dans les cellules ciliées externes qui ne consomme pas d'énergie, qui permet de fonctionner tout au long de notre vie pour amplifier notre oreille. Il faut savoir que c'est ce moteur électrique, évidemment, ce sont ces cellules ciliées externes qui sont les plus fragiles, et qui sont les plus fragiles lorsqu'il y aura un son d'intensité trop forte. Alors voici ici, entre parenthèses, ce qui se passe dans votre oreille. Ça c'est une image du professeur Jonathan Ashmore qui a fait voilà une cellule ciliée dansante qui réellement bouge à la fréquence du son qu'on lui envoie. C'est ce qui se passe dans votre oreille, ça bouge. Et donc ça génère une cellule ciliée qui... Et ça de manière infatigable. Ça ne consomme pas d'énergie, ça prend simplement l'énergie électrique qui est envoyée, qui est amenée par le son. Bon, maintenant, je vais parler de dépistage de surdité, brièvement. T'en passe. Et vous dire que pour dépister l'audition, voir si l'audition fonctionne normalement chez le patient, on réalise un premier test d'abord qui s'appelle l'audiométrie tonale. C'est-à-dire que le patient est enfermé dans une chambre sourde, chambre anéchoïque, et on lui envoie des sons de différentes fréquences, et cette personne lève la main ou pas, voir si elle entend les sons. Et donc, on établit une courbe audiométrique. Voici ici une courbe audiométrique en rouge d'une personne qui présente une perte auditive, par exemple, à 4000 et 8000 kHz. C'est ici une manière objective de dépister si l'oreille interne fonctionne ou pas. Bien entendu, les auto-émissions dont je vous parlais sont également un test pour savoir si votre cochlée fonctionne. Mais là, on sonde directement l'activité des cellules ciliées externes, donc savoir si vos cellules ciliées externes sont normales ou pas. Et une autre manière, ce sont une détection un peu plus fine, mais un peu plus compliquée, c'est les potentiels évoqués auditifs. On vous pose des électrodes sur le scalp, sur la tête, et on enregistre l'onde produite par l'activité donc des synapses, donc de ces contacts entre cellules ciliées et fibres nerveuses, qui produisent ici ces ondes électriques. Voilà des ondes électriques normales, et ici une onde électrique de quelqu'un, enfin très faible, donc de quelqu'un qui ne peut pas, qui n'entend pas les sons, par exemple. Alors, différents degrés de surdité. Bon, il y a des surdités légères, hein, donc c'est jusqu'à 20 décibels, on parle d'une audition normale. Une surdité moyenne, la parole est perçue si on élève la voix, la personne de l'entendant comprend mieux en regardant le locuteur, quelque peu familier. Et ensuite, bien sûr, il y a les surdités sévères, la parole est perçue à voix forte près de l'oreille, seuls les bruits forts sont perçus. Alors, souvent ici, ce sont des détériorations, donc des pertes de cellules ciliées, mais ça peut être aussi le fait que les cellules ciliées soient là, mais les fibres nerveuses connectant les cellules ciliées sont absentes ou ne sont pas fonctionnelles. Alors, les pertes de l'audition, de manière générale, c'est un des handicaps les plus répandus dans le monde. 15 à 20% des personnes dans le monde en seraient affectées. Et bien entendu, la fréquence des pertes d'audition varie selon la tranche d'âge. Vous voyez qu'à 61 ans, 30% des gens ont des problèmes auditifs. Les principales causes de surdité, bon, elles sont héréditaires et donc génétiques, donc dues à des mutations dans des gènes qui modifient donc des protéines qui sont spécifiques aux cellules ciliées, par exemple. Ça peut être dû à des infections par des pneumocoques, par exemple, infections de l'oreille moyenne qui peuvent toucher l'oreille interne. Ça peut être des traumatismes acoustiques et bien entendu aussi l'autotoxicité médicamenteuse, les antibiotiques, le cisplatine et l'aspirine, qui peuvent également détruire les cellules ciliées. Je vous dirai quelques mots sur les antibiotiques tout à l'heure. La presbyacousie, c'est l'âge. Avec l'âge, les cellules ciliées dégénèrent. Et bien entendu, une autre source de pathologie, ce sont les acouphènes et hyperacousies, qui peuvent avoir différentes origines, mais ça peut être par exemple un traumatisme acoustique qui peut provoquer un acouphène qui sera gardé ou pas. Alors les surdités de transmission. Les surdités de transmission, c'est simplement l'oreille moyenne est bouchée, donc l'onde acoustique ne passe plus, c'est simple. Ça peut être le fait que la chaîne ossiculaire est cassée, donc une rupture. Ça peut être qu'il peut y avoir une otite de l'oreille moyenne. Et ça peut être aussi également le fait que la trompe de Stache soit bouchée et donc l'équilibre de pression ne soit pas fait. Voilà pour les surdités de transmission. Les surdités liées à l'âge, eh bien on voyait ici que à partir des 20 ans, on perd, surtout dans les hautes fréquences, mais certaines personnes ont un vieillissement accéléré pour des raisons diverses. Et à 20 ans, on peut déjà perdre 40 dB chez certaines personnes. Et à 60 ans, être quasiment sourd. Une autre image ici, vous montrant donc des surdités dues à des problèmes neurosensoriels. Donc effectivement, on perd des cellules ciliées, donc on devient sourd. Et ça peut être dû aussi à des problèmes de tumeurs, on va voir ici, on va repasser, donc perte de cellules ciliées. Voilà, on a perdu nos cellules ciliées, dans l'oreille fonctionne moins bien, mais ça peut être des tumeurs qui compressent les fibres du nerf auditif, on appelle ça des neurinomes, et donc font que la transmission du message acoustique électrique n'est plus transmise vers le centre. Alors, deux mots sur les aides auditives. Si les pertes en cellules ciliées ne sont pas trop graves, on peut appareiller la personne. Et donc, en quelque sorte, amplifier le son incident et permettre à la cochlée de détecter des sons de faible intensité. Je vais vous parler de l'implant cochléaire, donc découvert et mis en place par le docteur William en 1961. C'est en fait l'implantation d'une électrode qui va venir remplacer nos cellules ciliées, parce qu'elles sont absentes. Voici ici le fonctionnement. Donc il y a un receveur, un transmetteur qui transmet en trois par par ondes radio, et ensuite qui vient produire ici donc un signal électrique qui va imiter le fonctionnement des cellules ciliées externe et donc exciter directement les fibres du nerf auditif. Et donc, en général, les implants se font lorsqu'il n'y a plus du tout de cellules ciliées, mais il faut quand même que les fibres nerveuses soient encore présentes dans la cochlée. Et pour vous dire un chiffre, il y a presque 1 million de personnes qui sont implantées dans le monde, c'est pour dire l'importance, et il faut savoir que le prix de chaque implant au niveau chirurgical, c'est environ 35 000 euros. Mais quand même, ça permet à des enfants d'entendre et ça permet à certaines personnes, lorsqu'ils ont eu un accident, de recouvrer l'audition. Donc c'est quand même l'implant cochléaire, un outil extrêmement utilisé pour permettre à beaucoup de personnes d'entendre. Je vais passer là-dessus. Voilà ce que c'est qu'un bruit normal, on va dire. Voilà ce qu'on entend, ce qu'on a un implant cochléaire. Si ça peut bien fonctionner. Imaginez que l'implant cochléaire on entend, mais on n'entend pas, pas de la musique. C'est dû au faible nombre d'électrodes. Il y a simplement maintenant 16 électrodes à l'intérieur de la cochlée. Et ceci par rapport aux 20 000 cellules ciliées dont je vous parlais, qui permettent de décomposer le signal. Donc, malheureusement, l'implant cochléaire n'est pas encore suffisamment fin pour écouter du Beethoven. Un clin d'œil aussi pour dire qu'il existe également des implants bioniques pour compenser et faire fonctionner l'œil. Peut-être un petit peu plus cher, le double par rapport à l'implant cochléaire. Donc c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc des lunettes qui transmettent, donc qui traduisent donc ce signal lumineux en signal électrique qui permettra d'exciter le nerf optique globalement. Donc ça permet un espoir pour les patients atteints de rétinopathie. Alors les acouphènes, un petit mot sur les acouphènes. L'acouphène chronique, c'est un bruit subjectif entendu sans cesse, jour et nuit, dans l'oreille ou dans la tête, sans qu'il y ait aucun stimulus sonore extérieur. C'est à peu près la définition de ce que c'est qu'un acouphène. C'est une pathologie qui peut être rencontrée dans 14 à 17% des personnes, donc c'est très fréquent. L'origine, ben, ça peut être un orinome de l'acoustique, ça peut être le nerf auditif qui est comprimé par une tumeur, qui peut être bénigne et donc qui produit une excitation anormale du nerf. Donc ça, le chirurgien peut opérer. Ça peut être dû à une fracture du rocher qui peut abîmer le nerf. Ça peut être dû à des problèmes d'hypertension, hypertension artérielle, un stress. Ça peut être dû aussi, ces acouphènes peuvent provenir de traumatismes acoustiques ou de traumatismes barométriques, traumatismes de plongée par exemple. Il y a installation de ces acouphènes, donc de ces sons fantômes qu'on entend en permanence dans la tête. Les mécanismes cellulaires et moléculaires de ces acouphènes sont encore complètement inconnus. On ne sait pas trop d'où ça vient, d'où est l'origine. C'est sûrement le fait qu'on perd nos cellules ciliées, nos fibres nerveuses étant orphelines de signal entrant, eh bien, il y a réorganisation centrale et formation de boucles internes, peut-être l'équivalent de ce qui peut se passer dans un phénomène de Parkinson, et donc des mouvements ou une écoute anormale. Il n'y a pas de thérapie très efficace pour traiter les acouphènes. Alors, brièvement, un acouphène peut survenir lors d'un traumatisme acoustique. Voilà ici ce qui peut se passer. Surstimulation, la synapse ou la fibre postsynaptique est détruite, la fibre nerveuse se trouve orpheline et il y a création de cet acouphène, c'est-à-dire que la fibre envoie des signaux anormaux. Je vais rapidement passer sur les antibiotiques et vous dire que les antibiotiques aminoglycosidiques, découverts en 1944, donc pour traiter, étaient très efficaces pour lutter contre la tuberculose. Cependant, ces antibiotiques ont été démontrés avoir des effets secondaires extrêmement graves pour l'audition. C'est-à-dire que les gens traités dans les années 50 par ces antibiotiques eh bien, avaient très souvent des problèmes d'audition, d'équilibre et donc des problèmes de perte auditive. Donc les antibiotiques aminoglycosidiques sont extrêmement toxiques contre les cellules ciliées et produisent donc une perte, ici vous voyez chez un modèle animal, des pertes de cellules ciliées très rapides qui peuvent aller jusqu'à une destruction totale de l'organe de Corti. Donc juste un mot pour parler des antibiotiques. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors bien entendu, l'ennemi numéro un de nos cellules, bien entendu, c'est le bruit, le trop-plein d'énergie. Et par exemple ici, vous voyez ce qui se passe quand on est dans la zone verte de stimulation des stéréocytes de nos cellules. Tout est normal. On passe dans la zone orange ici. C'est par exemple lorsqu'on a un baladeur MP3 un peu fort ou dans une discothèque, eh bien, vous voyez, nos cils se désorganisent. Ça peut être irréversible. Ou lorsqu'on est dans un concert trop fort, eh bien, nos cils peuvent même s'arracher. Et un coup de feu, un coup de brume, peuvent complètement disparaître à la surface de la cellule. Passer là-dessus. Voici ici une coupe d'un animal normal. On voit les cellules ciliées normales, nos rampes, la membrane basilaire portant l'organe de Corti des cellules ciliées. Et voici ici, après un traumatisme acoustique, les cellules ciliées ont disparu. Ici, suite à un traumatisme acoustique, vous voyez ici les cellules ciliées, ça c'est d'un cobaye chez le modèle animal, les cils ont tendance à fusionner, même à complètement se couper. On les appelle stéréocils parce que ce sont quand même des structures très rigides, comme des petits bâtonnets. Et donc, lorsqu'il y a trop d'énergie, eh bien, ces bâtonnets s'arrachent et se cassent de manière irréversible. Ça c'est le cas ici. Les cellules ciliées externes, hein, vous voyez ces trous ici, trop d'énergie, le son à trop forte intensité, on peut expulser les cellules ciliées externes de la membrane basilaire. Un petit clin d'œil, c'est une chose remarquable, c'est que les oiseaux, par exemple, ont la capacité de pouvoir régénérer leurs cellules ciliées, donc régénérer leur audition. Quand ils perdent l'audition, ils peuvent, quelques semaines après, recouvrer l'audition, ce qui n'est pas le cas des mammifères. Donc, eh bien, on essaie de comprendre pourquoi finalement, les oiseaux peuvent réparer leur système auditif et recouvrir l'audition, alors que ben, l'homme, pour le moment, il ne peut pas. Et donc, les chercheurs travaillent dessus. Passer ça. Bien entendu, l'un des outils possibles, c'est la thérapie génie. C'est en cours de traitement pour essayer de traiter nos cellules ciliées. Et la thérapie cellulaire. On va passer, je suis un peu en retard. Bon, ça ne va pas avancer. Voilà, je vais passer le vestibule. Je pense que là, je ne peux pas trop avancer. Donc, les principaux facteurs de presbyacousie, donc de vieillissement, j'aime bien cette équation, c'est l'équation de Hawkins, qui finalement, bon, il y a beaucoup d'intégrales, mais c'est finalement la perte auditive est égale à la somme des drogues autotoxiques et des bruits traumatiques accumulés au cours des ans. C'est-à-dire qu'effectivement, votre oreille, elle a une histoire. Comme tout, c'est finalement la somme de quantité de médicaments qui ne sont pas bons pour vos cellules ciliées, ajoutée à la quantité d'énergie qu'elles ont pu recevoir, plus, bien entendu, la part des gens, des anges, étant le facteur un petit peu génétique, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Il y a des facteurs de prédisposition génétique. Et donc, vous avez l'équation ici de perte auditive en fonction de votre âge. Alors, le message à retenir, c'est que donc l'oreille est un microphone très performant, 0 dBSPL, un organe actif. Rappelez-vous des auto-émissions acoustiques et des cellules externes. Donc, le signal est amplifié. Donc, le son est fort. Et en plus, imaginez, il est amplifié dans l'oreille. Il y a très peu de cellules ciliées, entre 17 et 20 000 cellules ciliées. Ça, par rapport aux 100 millions de photorécepteurs et aux 10 milliards de neurones dans le cerveau, vous voyez que ça ne fait pas beaucoup. Un organe performant mais fragile, et il n'y a pas de régénération possible. Donc protégez vos oreilles, attention aux traumatismes acoustiques qui peuvent provoquer donc ces acouphènes, qui peuvent endommager votre oreille de manière irrémédiable. Bon voilà, je vais m'arrêter là, il est 7h30. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop semé de confusion. J'ai couvert beaucoup de domaines de manière un peu superficielle et parfois un peu mélangée. Mais bon, maintenant j'attends vos questions et je répondrai à vos questions avec plaisir.
Donc voilà, le micro est à votre disposition. Je vois une première question, 2, 3. Je vais commencer par là.
Bonsoir. Je souffre de ne pas entendre les sons aigus et je ne sais pas comment expliquer ça alors que j'entends très bien. Un insecte qui entre dans l'appartement, je l'entends très bien, même si je ne l'ai pas vu. Et j'entends très mal les sons aigus. Et d'autre part, je confonds les F et les S, enfin différentes lettres dans l'alphabet.
Ben pour les sons aigus, comme je vous disais, c'est la partie de l'organe sensoriel qui s'abîme en premier avec l'âge, et en particulier chez certaines personnes. Pour des raisons inconnues. Donc, ce n'est pas étonnant que vous perdiez, avec l'âge, cette capacité de pouvoir bien entendre les sons de haute fréquence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à y faire ? C'est peut-être vous utiliser des prothèses auditives pour essayer de pallier. Oui. C'était inutile. Voilà. Mais si vous entendez très bien à basse fréquence, c'est quand même les fréquences essentielles pour discuter.
Bonsoir, merci pour votre présentation très intéressante et didactique. Il me semble qu'il y a des personnes qui développent une hypersensibilité pour des fréquences correspondantes à des sons de la vie quotidienne et qui ont un retentissement très important donc, sur leur confort. Et je crois qu'il y a aussi des traitements.
C'est l'hyperacousie, ça, oui.
Oui. Oui.
Des gens qui entendent trop bien. Ouais.
Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'il y avait des différences de profil au niveau des cellules ciliées ? Au niveau de l'expression génique ou je sais pas, des protéines. Et comment ces traitements arrivaient à cibler donc, ces cellules ciliées sur ces tranches de fréquence ?
Ben pour l'hyperacousie, on va dire, c'est l'origine n'est pas encore très bien comprise. Elle peut être variée. Comme pour les acouphènes, ça peut avoir différentes sources. L'hyperacousie, comme je vous disais, l'oreille interne, la cochlée, c'est un véritable baromètre. Donc c'est très sensible à la pression atmosphérique dans lequel vous êtes. Si vous êtes en montagne, quand vous êtes dans une voiture, par exemple, vous avez bien vécu cette expérience, vous avez l'oreille qui a l'impression qu'il se bouche. Donc, imaginez votre cochlée, c'est un petit baromètre. Et si, on va dire, l'homéostasie des liquides dans cette cochlée sont un petit peu modifiés, s'il y a une augmentation de la pression osmotique à l'intérieur de cette cochlée, eh bien, votre organe, il peut avoir tendance à être hypersensible, on va dire, hypersensible au son, tout en restant normal, vous voyez. Donc ça peut être dû à un déséquilibre de composition ionique des liquides périlymphatiques dans la cochlée. Une possible source. Mais d'autres peuvent être un défaut au niveau des fibres nerveuses, un défaut également au niveau des cellules ciliées. Précisément comme ça, c'est très difficile à déterminer chez quelqu'un, en fait.
Merci.
J'arrive. Bonsoir. Je voulais vous demander, au niveau de la maladie de Ménière, vous avez
sauté tout ça.
Quand il n'y a plus de vertige, mais qu'il reste quand même les acouphènes et la surdité totale d'un côté, est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a une douzaine d'années, on m'avait dit qu'il n'y avait rien pour...
La maladie de Ménière aussi, elle est pensée être un problème de pression intracochléaire. C'est un problème de pression intracochléaire qui fait que pour les cellules vestibulaires, par exemple, elles sont pas excitées de manière normale. Et si la pression est trop forte, les fibres nerveuses sont excitées alors qu'elles ne devraient pas. Et donc, il y a la production d'acouphènes. Alors, votre question, c'était... votre traitement était quoi? Enfin, je ne veux pas vous donner non plus, mais...
Non, mais maintenant, j'ai plus de traitement, j'ai plus de vertige.
Vous n'avez plus de vertige.
Il me reste une surdité totale de l'oreille. Voilà. Et puis
parce que sûrement, vous avez
et les acouphènes.
Vous avez eu une opération, c'est ça ou...
Non, rien. On n'a rien fait.
C'est... Oui. C'est...
On m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Je voulais savoir s'il y avait eu une avancée, quelque chose.
Mais c'est pareil. L'origine peut être très diverse. Et non, pour le moment, il n'y a pas de traitement précis pour la maladie de Ménière, malheureusement.
Alors, je vous ai entendu à travers mes acouphènes, donc ils sont toujours là. Est-ce que ça veut dire, ayant des acouphènes, donc ce bruit 24 heures sur 24, que la cochlée n'arrête pas de vibrer?
Alors, ça peut être ça. Ça peut être le fait que vous ayez perdu un certain nombre de cellules ciliées internes aussi, et que, comme je disais, les fibres nerveuses, se retrouvant orpheline, n'ayant pas de signal arrivant des cellules ciliées, il y a une certaine réorganisation centrale synaptique qui se réalise. Parce que l'acouphène après s'installe au niveau central, et donc ces connexions électriques centrales qui se forment nouvellement du fait de l'absence de signal périphérique ont tendance à former des boucles qui peuvent générer ces bruits fantômes.
Moi, je tiens à te remercier. Moi, je ne t'ai jamais écouté avant. Je tiens à te remercier pour cet excellent exposé, très didactique.
Merci.
Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que je ne suis pas le seul. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. J'aurai le privilège de dîner avec toi tout à l'heure, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Oui. Mais je vais poser juste une question, peut-être, qui pourrait intéresser d'autres personnes. Les cellules ciliées, tu n'as pas voulu le dire peut-être, mais est-ce que c'est bien des cellules épithéliales dans ce cas-là?
Des cellules d'origine épithéliale. Ce sont des cellules qui n'ont pas de potentiel d'action, sauf dans le temps précoce de leur développement. Enfin, ça, c'est autre chose, mais...
Ces cellules ciliées, on en a ailleurs aussi. On en a dans l'intestin, on en a au niveau de la cavité, il y en a au niveau de la cavité utérine, il me semble, il y en a au niveau de la trachée pour pouvoir expulser les particules de poussière. Mais elles ont, ces cellules-là, la particularité de se renouveler à très grande vitesse.
Oui.
Ce sont des cellules qui se renouvellent beaucoup et sans aucun problème. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces cellules ciliées, d'origine probablement épithéliale, hein, parce que ça ressemble à l'épithélial, non ?
Ce sont des cellules...
Pourquoi elles ne se renouvellent pas ?
D'accord. Par rapport aux cellules dont
tu parles... Et est-ce qu'on peut les faire renouveler, y compris par thérapie cellulaire ? Parce que là, on est dans une région très petite.
Pour le moment, c'est un échec total chez...
C'est un type de cellule qu'on a comme des cellules au niveau de la peau, les cellules de l'intestin. C'est
l'origine embryonnaire de la cellule. C'est-à-dire chaque cellule, en fait, c'est l'origine embryonnaire de la cellule. Il y a des parties de l'embryon qui sont prédestinées à devenir parties nerveuses et d'autres parties épithéliales. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que ces cellules-là qu'on voit un peu ailleurs se renouvellent sans problème et pourquoi au niveau de l'oreille, elles ne se renouvellent pas?
Ça, je ne peux pas répondre à cette question, mais je voudrais quand même indiquer que les cellules ciliées, quand même, forment, Elles se rapprochent un peu de ce qu'est un neurone, dans le sens où elles neurosécrètent du neurotransmetteur glutamate, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équivalent d'un bouton présynaptique, intact. Enfin, même si l'origine embryonnaire n'est pas stricto sensu d'origine neurale, c'est quand même l'équivalent d'un bouton présynaptique, d'une très grosse synapse, avec la capacité, j'en ai pas parlé ici, de pouvoir sécréter ou faire fusionner des vésicules synaptiques à très grande vitesse, à très grande quantité et sans fatigue. C'est-à-dire qu'elles ont des potentiels d'action simplement à leur stade précoce du développement pour... Alors, ces potentiels d'action, cette activité spontanée qui est un peu générale, c'est pour que se mette en place l'innervation afférente descendante de manière à ce que s'organisent, entre guillemets, ces boucles centrales, se mettent en place. Voilà. Donc, c'est le...
Merci. D'autres questions ? Attends, je reviens. Peut-être avant. Mesdames d'abord. Est-ce que la méthode Tomatis est vraiment efficace pour améliorer l'audition ?
La méthode, pardon ?
Tomatis.
Tomatis. Est-ce que vous pourriez me parler de cette méthode ?
C'est bien. Un médecin Tomatis. Ouais. Donc, on a une... de la musique est diffusée par un picot,
oui.
Et on reste plusieurs heures comme ça, et la musique est déformée, et les sons...
Pour traiter les acouphènes ?
Pour traiter toute l'audition, améliorer le...
Alors là, vraiment, j'y crois pas trop à ça. Hein.
Pardon.
Je voulais vous demander si... alors, dans les acouphènes, vous avez dit que l'une des théories,
oui.
C'est qu'il y a une réorganisation du système nerveux, oui. Au niveau de l'oreille interne. Est-ce qu'il y a...
Au niveau central, au niveau des centres auditifs.
Oui. Au niveau des centres auditifs du cerveau.
C'est ça.
D'accord,
au niveau des différents relais auditifs.
Parce que je me demandais justement, par exemple, quelqu'un qui devient aveugle,
oui.
Et donc qui va avoir une réorganisation de ses centres, notamment auditifs, oui. Est-ce que ça peut augmenter les chances de développer un acouphène ?
Visuel, vous voulez dire, faut l'équivalent de...
Alors, du moins, si la personne devient aveugle, est-ce qu'elle a plus de chances de développer un acouphène vu qu'il y a cette réorganisation
Si elle devient aveugle, vous voulez parler d'acouphène, c'est-à-dire de problèmes de son, mais pas si elle devient aveugle. Je veux dire, les deux voies nerveuses sont très différentes. Vous voulez dire l'équivalent d'acouphène visuel, c'est ça ?
Non, c'était dans le sens quand une personne devient aveugle, il y a une réorganisation des centres sensitifs.
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes voies.
C'était ma question. Merci.
Ce ne sont pas les mêmes voies.
J'y viens de toi. Attendez, hop. Bonsoir et merci. Je voulais vous demander la surdité de naissance. Est-ce que c'est un déficit en cellules ciliées ou est-ce qu'il y a d'autres origines possibles ?
Je dirais il peut y avoir tout. C'est une origine génétique, par exemple, c'est des mutations génétiques. Alors, il peut y avoir, je vais vous prendre le plus simple, c'est de prendre quelques exemples sur lesquels je travaille. C'est une mutation sur la cellule ciliée interne qui doit donc transformer ce signal microphonique millivolt en train de potentiel d'action. Il y a une protéine qui est un calcium senseur très particulier qu'on appelle l'autoferline, donc qui fait cet encodage. C'est-à-dire que ça va relarguer du neurotransmetteur en fonction de l'intensité de la fréquence du son. Une mutation sur cette protéine autoferline produit une surdité congénitale. Donc voilà. Mais ça peut être il y a d'autres protéines, telles que des protéines impliquées dans la mécanique des cils, par exemple. Il y a des cadérines, protéines de structure des cadérines. Une mutation produit donc une surdité congénitale. Mais il y a espoir de pouvoir un jour, parce que chez l'animal maintenant ça marche, pouvoir réparer ces mutations génétiques par des techniques telles que CRISPR-Cas9, dont tout le monde parle à l'heure actuelle, ces modifications du génome, et donc pouvoir modifier le génome et réparer ces mutations.
Pardon. Merci. Je voudrais revenir sur la régénération possible, enfin non, impossible justement chez l'homme, mais chez les oiseaux par exemple. Est-ce qu'on a des pistes sur le pourquoi ? En fait, quelle est la différence ? Est-ce que les cellules ciliées ont une structure un peu différente chez les oiseaux ou est-ce que c'est leur environnement qui est différent ?
Ça, c'est une bonne question. Je Je ne suis pas spécialiste de la question, mais si je me rappelle bien, c'est, on va dire, l'origine et les facteurs de transcription mis en jeu au cours de la différenciation embryonique des cellules de poulet, on va dire les facteurs de transcription, les promoteurs impliqués, la voie de développement, n'est pas la même que celle des mammifères. Il y a aussi le fait que les oiseaux, ça, je n'ai pas le temps d'en parler, encodent surtout, ou n'entendent simplement que des sons de basse fréquence. Donc ça va souvent jusqu'à 4 kHz. Alors vous voyez, par rapport aux mammifères qui peuvent aller, comme la chauve-souris, jusqu'à 100, 160 kHz, on a vraiment là quasiment des cellules sensorielles différentes. Donc voilà, c'est ce à quoi je peux répondre. Je ne pense pas qu'on en sache beaucoup sur la différence réelle. On ne connaît pas encore les différentes étapes de différenciation des cellules ciliaires.
J'ai lu dans une revue qu'aux États-Unis, ils ont, pour les acouphènes, ils en sont au stade de la recherche où ils disent qu'en fait, c'est une transmission de mauvais signaux vers le cerveau et qu'ils essayent de traiter en contre-mesure, si vous voulez, par des appareils électroniques, de dissuader les ondes de repartir vers le cerveau. C'est un peu comme la fibromyalgie, le cerveau interprète mal les consignes qui lui sont données, et apparemment ils essayent de traiter avec des procédés électroniques pour contre-mesure.
C'est ça, c'est en fait un phénomène de masquage. En envoyant notre son, des contre-mesures, on va masquer l'acouphène et faire en fait qu'on n'ait plus l'impression de l'entendre. Oui, ça c'est une voie de traitement pour certains acouphènes, ça c'est vrai.
D'autres questions ? Non, sans regret. Bon, écoutez, je vous remercie.
Une dernière là-bas, madame.
Peut-être, peut-être. Alors.
Oui, bonsoir. J'ai été opérée d'un orinome de l'acoustique il y a 17 ans. J'ai perdu l'audition d'une oreille. Est-ce que les chercheurs travaillent là-dessus pour récupérer éventuellement l'audition à un moment donné, ou est-ce qu'on est condamné à utiliser que les appareils auditifs ?
Oui, alors c'est l'oreille opérée qui est sourde, hein ? L'oreille opérée du norinome.
Oui, c'est ça.
Ben oui. Et comme le norinome, s'il y a eu section du nerf, c'est souvent ce qui peut se passer. Là, la surdité est expliquée comme ça. Donc, on va dire la réparation nerveuse et la réinnervation vers les cellules ciliées, bon, ce n'est pas des techniques encore à l'échelle clinique. Ça peut être envisagé in vitro sur des explants d'organes de Corti. Qu'on place in vitro sous le microscope, c'est vraiment encore à l'état de la recherche. Mais on est encore loin de refaire pousser les fibres nerveuses vers les cellules ciliées. Non, ça c'est.
Ok, merci.
C'est pas pour demain.
Courage. Courage. Voilà. Bon, mais encore merci, Monsieur Dulon, pour votre intervention. Merci pour vos questions.
Merci beaucoup.
Et puis bonne prolongation.